c'est la terre au carré et la terre au carré est toujours en vadrouille. Camille Cronier,
Bonjour Laetitia.
Salut.
Alors là, on est au paradis des fruits et du bio, dans le village de Loriol-sur-Drôme, et on vous rapportera une petite barquette de fraises, c'est
voilà. Parce qu'il y a les abricots, mais il faut attendre la mi-juin.
On attend le mois de juin. Mais les fraises chupronneuses,
de la Charlotte ou de la Séraphine?
Eh bien, on vous fait ça.
Bonjour, Clara de Cray. J'appelle pour rebondir par rapport aux questions d'eau à Divageux et d'agriculture, parce que je pense qu'il aurait été pertinent de dénoncer aussi les projets de méga-bassines, qui est en fait un projet pour le profit de l'agro-business et au détriment des petits agriculteurs, et qui contribue à assécher davantage les cours d'eau, puisqu'il s'agit de pomper les cours d'eau et les nappes phréatiques en hiver, c'est-à-dire la période où normalement les réserves en eau se reconstituent. Voilà, bonne soirée, au revoir.
Frédéric de Vitry-sur-Seine. Eh bien, je me félicite qu'on ait pu sauver les 21 arbres au pied de la Tour Eiffel avec 125 000 signatures. Mais à 10 km de là, à Vitry-sur-Seine, au domaine Chériou, il y a plus de 50 arbres, des platanes, dont certains sont en tonnerre, qui vont être détruits pour la promotion d'un projet soi-disant scolaire, immobilier, culturel. Merci de nous aider et de signer la pétition sur change.org pour les arbres du domaine Chériou. À bientôt. Au revoir.
Salut la Terre au Carré, c'est Marion de Cray. Ravie de vous savoir dans la Drôme, territoire où vient d'être semé un nouveau groupe de faucheurs volontaires. Bien que la majorité des Français pensent qu'il n'y a plus d'OGM cultivé en France, à part pour des essais, eh bien non, il y a des hectares et des hectares de culture de nouveaux OGM. Alors oui, les faucheurs continuent de faucher, au moins une partie, parce que c'est quand même 30% des tournesols cultivés en France qui sont OGM. Ce sont des variétés rendues tolérantes à des herbicides, qu'on dit VR et H. Aujourd'hui, la lutte contre les OGM est donc directement liée à la lutte contre les pesticides chimiques. Ce sont des milliers et des milliers de tonnes de pesticides épandus en plus chaque année en France pour aller directement sur ces cultures. Et à la fin, nous, on bouffe des herbicides. Le groupe Faucheur Drôme s'est monté en septembre. Il lutte avec des camarades faucheurs de la France entière pour que les Français sachent, oui, il y a en France des tournesols, du colza et bien d'autres cultures OGM.
Merci pour vos messages, amis de la Drôme. Et d'ailleurs, et bien sûr, vous continuez à nous appeler sur ce répondeur au 01 56 40 45 45. Le répondeur de la Terre au Carré, vous l'avez entendu, et nous poursuivons notre route sur les chemins de la Drôme. Nous avons donc quitté les rives de la rivière et de ces torrents sauvages pour arriver aujourd'hui donc dans la commune de Loriol, à quelques encablures de l'Ardèche, dans ce qui est appelé la Biovallée, un vrai pays de cocagne avec ses champs remplis d'arbres fruitiers et de légumes. Ici, nous sommes dans le premier territoire bio de France. 40% des terres agricoles sont en effet cultivées en bio, avec une mise en avant des produits locaux proposés en circuit court. Alors, on a voulu savoir avec Camille comment travaillaient les agriculteurs installés ici en bio, comment ils faisaient face à différentes contraintes comme les insectes, le gel ou bien sûr le réchauffement climatique. Et puis pour nous rappeler également quels sont les fruits et les légumes de saison que nous avons souvent l'habitude d'oublier. Pour en parler, nous sommes accueillis chez vous, Cyril Vignon. Bonjour Cyril.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Comme on va le voir, vous avez une production maraîchère bio très diversifiée, oui, dans une exploitation qui est une grande histoire de famille, puisque vos arrière-grands-parents étaient déjà agriculteurs et éleveurs. C'est ici. Ça. Alors au cours de cette émission, on va rencontrer un voisin, arboriculteur, un jeune chef qui vient acheter ses légumes ici, qui a créé un food truck, on le verra, pour proposer des produits de saison. Et puis nous serons accompagnés par un jeune garçon de 11 ans que nous avons croisé hier dans un bois avec une bande de copains. Il a déjà son propre jardin potager, il s'appelle Anatole. Bonjour Anatole.
Bonjour.
On va discuter avec toi pendant toute cette émission. Tu habites à Chabriant, à quelques kilomètres d'ici. Tu veux devenir botaniste et tu pourras poser toutes les questions que tu souhaites à nos invités. Camille Cronier, bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert bien sûr à 14h30. Vous êtes allé rencontrer l'un des plus gros producteurs de fruits bio de la région.
Hein. Oui, Foriel Frères, 100 hectares de vergers de pommes, poires, pêches, abricots et cerises. Tout en bio depuis 6 ans et tout ou presque pour la grande distribution. Mais Marc, le gérant, assume.
Je veux dire,
le produit bio n'est pas réservé à une élite. 80% des consommateurs vont acheter leurs fruits et légumes dans la grande distribution. Donc il ne faut pas vouloir opposer les systèmes. C'est terrible de tout le temps vouloir dire qu'il y a, d'un côté il y a les bons, d'un côté il y a les méchants. Je pense que chaque modèle a son intérêt et ce qui permet de démocratiser le bio et que chaque consommateur puisse avoir accès à un marché bio.
14h30 tout à l'heure, Camille passe au vert. Et puis comme tous les jours avant 15h, notre reporter Anaëlle Verzeau nous emmènera sur le front des luttes drômoises. Pour son dernier reportage, Anaëlle s'est rendue à Saint-Paul-Trois-Châteaux où un collectif se bat depuis 2 ans contre un projet d'échangeur d'autoroute qui pourrait mettre en péril 20 hectares de terres agricoles. Voilà pour le sommaire de cette Terre au Carré réalisée par Valérie Ayestaraï et Théo Raison à Paris. Dossier préparé par Lucie Sarfati et Marion Philippe, Guillaume Rialan et notre chargé de prod. Olivia Branger, Nicolas Mathias et Philippe Duclos sont à la technique.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour la Terre au carré, bienvenue dans la Drôme.
Le printemps. Oh, bel arbre bourgeonnant au printemps, sous le soleil levant, qui rend notre vie toujours plus succulente. Petite graine germante, en sortant de terre, depuis longtemps tu nous attends, vive le printemps.
Merci Anatole d'ouvrir cette émission. Je crois que c'est une saison que tu adores, le printemps, c'est
tout
vrai.
Tout à fait.
C'est toi qui as écrit ce texte, hein, on le
oui,
précise.
Oui, j'ai écrit ce texte il y a environ 6 mois.
Eh ben, c'est super, on est ravis d'ouvrir cette émission avec toi parce que c'est justement dans cette ambiance printanière et au milieu des arbres fruitiers que nous ouvrons cette terre au carré, Cyril Vignon, dans votre exploitation de L'Auriol-sur-Drôme. Vous êtes maraîcher, hein, vous avez donc une maîtrise en biologie végétale.
Oui.
Et je le disais en préambule, ce lieu c'est aussi une histoire agricole ancienne pour votre famille. Vous êtes agriculteur donc depuis 4 générations, hein, c'est ça ?
C'est ça, oui. C'est mon arrière-grand-père qui a acheté cette ferme en 1928. Ensuite, mes parents en 1976. Et puis moi, j'ai démarré en 1998.
Et vos parents nous ont rejoints. On est très contents de les rencontrer. Jean-Pierre et Gillette.
Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va très, très bien.
À quel moment la famille a vraiment commencé, alors, ici ? Parce que c'était l'arrière-grand-père, hein, de Cyril.
1928. Après, c'est donc mon père. Et moi, j'ai commencé en 1976.
Ouais. Et le grand-père, l'arrière-grand-père, il a planté le premier fruitier ici à quel
dans les années 1930. Hein.
Ouais, c'est ça.
Ginette, ça représente quoi l'arboriculture en particulier? On est entouré de vergers là, juste sous la montagne d'Ardèche. Qu'est-ce que ça représente ici, associé au bio? Parce que c'est quand même très important les deux.
Ben alors ça, je sais pas trop.
C'est une philosophie.
Vous aviez énormément d'arbres fruitiers, en fait,
oui,
ici,
disons
quand vous étiez...
Bon, ben, nous, quand on a repris l'exploitation de mes beaux-parents, c'était pratiquement tout en fruitier.
Ouais.
Et puis nous, petit à petit, on a éliminé un peu du fruitier, en particulier les pommes en 85, ouais. Qu'on a tout arraché.
Ouais. Tout arraché les pommiers. Pourquoi cette décision ?
Parce que ça ne marchait plus.
Ah non.
On perdait de l'argent toutes les années. Et, alors ça fait qu'on avait tout arraché. Et voilà. Et puis bon, ben après, à ce moment-là, on a commencé à faire des légumes.
Ouais. Jean-Pierre, vos parents, alors eux, ils ont vraiment vécu les années 60.
Oui.
C'était la grande époque des pesticides. Hein. Tout le monde en bombardait absolument de partout.
Les engrais chimiques et les pesticides.
Et alors vous avez représenté un peu la génération charnière, en fait, c'est ça ?
Ah oui, moi j'ai commencé à réduire énormément les engrais chimiques et les désherbants et puis pour me consacrer à des cultures un peu plus naturelles. Voilà.
Cyril, je vous repose ma question. Pourquoi tant de vergers ici, particulièrement dans la Drôme ? Alors il y a le climat évidemment, mais est-ce qu'il y a autre chose avec aussi donc l'agriculture biologique qui a une grosse part
Alors dans la vallée du Rhône, ce sont des terres très fertiles qui se prêtaient bien à ce type de culture.
Et ce qu'on appelle la biovallée, alors c'est vraiment ça, c'est cette terre de richesse, hein, qui permet d'avoir un sol, et c'est pour ça qu'on croise des arbres fruitiers absolument partout sur la route ici.
Alors la biovallée, c'est une marque territoriale qui associe tout le territoire de la vallée de la Drôme. Et pourquoi il y a beaucoup de bio dans cette vallée? Parce que historiquement, les fermes de la Drôme, c'était des fermes de petite taille. Et qui se prêtait bien à la culture bio. Et en fait, le bio est né dans la vallée de la Drôme, en fait. Ouais. Dans les années, déjà 1950.
Alors vous, Cyril, vous êtes presque un contre-exemple, parce que si on voit des arbres fruitiers partout, vous avez décidé justement d'en faire le minimum et de passer plutôt aux légumes. C'est ce qu'on va voir dans cette émission. Pour quelles raisons vous avez plutôt décidé d'abandonner les fruitiers ?
Alors moi, à une époque, j'avais une dizaine d'hectares de fruitiers et j'ai décidé d'abandonner en 2013.
Ouais.
Pour des raisons principalement de santé. Parce qu'en verger, on fait beaucoup de tracteurs. Moi, je peux plus en faire beaucoup.
À cause du dos.
À cause du dos.
Ouais.
Alors après, le maraîchage, j'ai fait le choix du maraîchage. C'est aussi... ce sont des cultures qui sollicitent beaucoup le dos, mais pas de la même façon. Voilà. Donc, j'ai beaucoup même mal au dos en faisant du maraîchage qu'en faisant des fruits.
Ouais.
À quel moment vous avez pris votre retraite, Jean-Pierre et Ginette? Jean-Pierre,
fin 2011.
Oui, 2011 et moi en 2010.
Voilà. Ouais. Et donc, vous suivez un peu ce que fait le fiston maintenant, Jean-Pierre?
Oui, on le suit, oui. D'un peu plus loin maintenant, vu mes problèmes de santé, mais quand même, moi je viens tous les jours ici.
Hein. Ah oui, vous avez toujours un œil quand même. Ouais.
Cyril, un petit tour du propriétaire très rapide, là. On trouve quoi, du coup, comme fruits et légumes sur votre exploitation, qui fait combien d'hectares, d'ailleurs?
Alors moi, j'ai 2,5 hectares en production. Donc maraîchage diversifié.
Donc c'est ce qu'on appelle une petite exploitation. Hein.
Oui, c'est une petite exploitation. Ouais. Oui.
Donc vous avez quoi? Alors fruits et ensuite légumes.
Alors fruits, j'en ai très peu. C'est un petit verger familial et pour une vente très locale. Et ensuite, moi je fais du maraîchage.
Avec des abricots, des cerises.
Oui, abricots, pêche et abricots.
Ouais, d'accord.
Et puis moi l'essentiel de ma production, c'est le maraîchage bio diversifié, où on produit environ 40 espèces de légumes réparties sur toute l'année.
En ce moment, c'est quoi? C'est les asperges beaucoup?
En ce moment, c'est les légumes de printemps qui arrivent, donc asperges, pois gourmands, pommes de terre nouvelles, carottes nouvelles, les premières fraises.
Ouais.
Voilà,
Au niveau des fruits, il va falloir attendre, parce que là, on est devant les fruitiers, hein, les pêches en particulier les abricots, mais c'est pas le moment du tout.
Oui, il faut attendre encore jusqu'au 15 juin. Ouais.
Mais on va beaucoup le rappeler dans cette émission, hein, Cyril, c'est aussi l'objet de cette Terre au Carré, c'est de dire qu'il y a des saisons.
Hein, c'est ça.
Et que ce qu'on voit dans nos magasins, comme les melons, par exemple, en ce moment, c'est pas du tout la saison.
Ni les tomates, hein, ouais. On va en parler tout à l'heure.
Ouais. Ouais.
Pourquoi vous avez choisi autant de variétés? Ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, parce que cette diversité, c'est aussi du travail quand même en plus pour vous. Mais pourquoi vous favorisez ça?
Parce que moi, c'est ce qui me plaît. Chaque jour est différent. Moi, je me serais embêté à faire qu'une seule espèce, à faire de la monoculture, ça ne m'aurait pas du tout intéressé. Moi, je m'éclate dans ce que je fais avec toutes les variétés différentes, les espèces différentes.
Ouais.
Voilà.
Anatole, tu nous dis, toi, t'as un potager dont tu t'occupes tout seul, c'est ça? Parce qu'on est en train de parler des difficultés, notamment physiques, évidemment, de faire l'agriculture. Toi, tu t'occupes tout seul de ton potager, il y a quoi dedans?
Tout à fait. Alors, dans mon potager, en ce moment, j'ai des oignons blancs, j'ai les premiers oignons blancs. J'ai des oignons jaunes qui sont pas prêts. J'ai des blettes, des salades et les derniers poireaux, voilà.
Et ça te vient d'où, cette passion légumes?
Je pense que cette passion, elle m'est venue à la base. Maman s'occupait avec d'autres personnes d'un centre social et moi, du coup, j'ai appris là-bas à utiliser mes mains dans la terre, tout ça, à planter des choses. Et ça m'est venu, je pense, un peu tout seul. Puis ensuite, j'ai eu mon premier vrai potager dans le 04, dans la Drôme et
dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Ouais, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Voilà.
Barcelonnette, hein,
c'est Barcelonnette,
ça.
Ouais. Tout à fait.
Alors donc Cyril, là vous avez un futur stagiaire, parce qu'il a 11 ans quand même, hein, avec déjà son jardin potager. Donc il y a plein de choses à transmettre à ce jeune homme qui aura certainement des questions à vous poser. Vous êtes tout seul avec votre femme ici, il n'y a pas de salarié en plus?
Non, il n'y a pas de salarié.
Vous arrivez à tout faire tout seul?
Des stagiaires, hein, de temps en temps, on essaye.
Ouais. Donc c'est quand même beaucoup de travail.
Oui, c'est un choix personnel de ne plus avoir de salarié.
Et vous vendez directement donc vos productions aux restaurateurs qui viennent ici vous voir, on va en rencontrer un tout à l'heure, et puis aux clients, et ça tombe bien, c'est le jeudi.
C'est ça.
Donc on risque d'en croiser tout à l'heure
et
également.
Et puis dans un magasin de producteurs, la musette de Valentine à Bourg-les-Valences.
C'est ça, voilà. Exactement, c'est son nom. Allez, on va rester au milieu des arbres fruitiers, on va faire connaissance avec un de vos voisins, qui est arboriculteur. Vous allez nous raconter comment vous travaillez en bio sans utiliser évidemment les produits phytosanitaires, par exemple pour vous débarrasser des insectes nuisibles. Et ce sera juste après Laura Cahen à la fièvre noire sur France Inter, la Terre au Carré en direct de la Drôme.
Quand je regarde dehors, je vois des village du Nord, la fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt la fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt, dépêcher. Pour toi les oiseaux, ma fenêtre est close et j'ai le vague là.
Quatre saisons de la Terre au carré, le printemps dans la Drôme.
Et si vous nous rejoignez sur France Inter, nous sommes aujourd'hui en direct de L'Oriole, donc dans la Drôme, commune située dans la Biovallée, où je vous le disais tout à l'heure, 40% de la production agricole se fait en bio, ce qui est unique en France. Cyril Vignon, c'est le printemps venteux là aujourd'hui. Hein.
Aujourd'hui, oui.
Mais encore, c'est
une, pour nous, c'est une petite brise.
Oui, ça souffle à combien là, vous savez?
Là, ils annonçaient 50, 60.
Quand voilà. Même.
Mais on l'entend bien, en tout cas, dans nos micros. Allez, vous nous accueillez dans votre exploitation. Nous sommes toujours avec Anatole, 11 ans, qui rêve d'être botaniste et qui cultive déjà son jardin potager. Et nous a rejoint le voisin, Yann Houlette.
Toutes mes salutations bonjour. À l'équipe de Terre au Carré.
Cher voisin arboriculteur bio, bonjour Yann Houlette. Vous êtes à quelques centaines de mètres d'ici.
Tout à fait.
Avec votre femme Virginie. Alors combien d'hectares est-ce que vous avez, vous, en arboriculture?
Nous, on a une dizaine d'hectares en tout.
Ouais. Qu'est-ce que vous cultivez comme fruits alors exactement?
Alors du coup, on a principalement on a trois productions principales. C'est la pomme, la poire et le kiwi. Et après, comme on a un petit atelier de transformation sur la ferme, on fait aussi plusieurs petits ateliers comme l'abricot, les cerises, les mirabelles, mais les figues. Là, c'est plus pour nos produits transformés.
Parce que vos fruits, en fait, ils sont destinés plutôt à être bu ou à être mangés comme ça directement.
Et bien, sur la ferme, ça se répartit en trois, en fait. On vend un tiers en fruits entiers, voilà. Après, on transforme un tiers de fruits pour nous et nos clients. Et puis après, on transforme aussi un tiers donc des produits des agriculteurs du voisinage, en fait.
Donc c'est quoi, des jus, des compotes?
Des jus principalement, ouais. Des jus et des compotes. Ouais.
C'est quoi la part de la transformation justement vous dans votre exploitation? Parce que ça correspond à quelque chose de particulier quand même, hein.
Eh bien, en fait, ça s'est fait déjà un peu par hasard, puisque quand on s'est installé en 2010, on a été tout de suite mis dans le bain avec un nuage de grêle qui s'est abattu sur la ferme. Et donc, du coup, on a transformé chez un copain que je salue de Peaugre, Emmanuel, qui nous a prêté généreusement son atelier. Et on a commencé comme ça à faire des compotes. Et c'est comme ça que c'est devenu un aspect essentiel sur la ferme, puisqu'on fait à peu près un tiers de notre production sur...
Ouais, c'est une façon d'utiliser tous les fruits qui étaient gâtés, quoi, finalement.
Tout à fait. Surtout quand...
Pas du tout vendable.
Moi, j'étais pas du milieu agricole. Et donc c'est vrai que on se prend quelques ambiances, on peut se prendre quelques cartons, on va dire ça comme ça.
Ouais.
Et donc du coup, quand on est mauvais technicien, c'est bien d'être un bon transformateur.
Cyril Mignon, comment vous avez géré vous justement les derniers épisodes de grêle ici, qui ont été très violents aussi dans la Drôme?
Alors un maraîchage, c'est un peu différent des fruits parce que on a des légumes toute la saison. Alors si on a un épisode de grêle, ça va toucher quelques cultures. Et pas la majorité, donc pour nous c'est moins...
Sur les fruitiers là, sur les quelques arbres que vous avez, il y a eu de gros dégâts ou pas?
Alors ceux-là sont très jeunes, donc ils n'ont encore pas eu d'épisode de grêle. Mais dans ma carrière d'arboriculteur, oui, j'ai eu des épisodes de grêle. Comme Yann, on a fait aussi la transformation.
Ouais. Yann Houlette, on pourrait dire que dans les ennemis des arboriculteurs, il y a les 2G, la grêle et le gel aussi. Il y a eu un épisode là il y a pas très longtemps, il y a un mois à peu près.
Voilà, on a eu un petit épisode de gel, mais ça n'a rien eu à voir par rapport à l'année dernière. C'est surtout l'année dernière. Où
mais est-ce qu'on pourrait rappeler pourquoi le gel est vraiment un problème pour les arboriculteurs? C'est parce qu'il y a des printemps plus précoces, c'est ça, les bourgeons qui sortent et bam.
Et voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les chaleurs finalement qui font sortir de de la période de dormance, les arbres, eh ben, ils viennent de plus en plus tôt, en fait, souvent janvier, février, ça commence déjà, enfin février, ça commence vraiment à sortir de partout. Et du coup, eh ben, ça rend les arbres beaucoup plus fragiles, puisque après, quand les périodes de gel, finalement, il y en a plus ou moins toujours eu un peu. Mais l'avancée végétative était, est telle qu'à ce moment-là, ben, ça fait vraiment des dégâts. En fait.
Alors, Cyril, justement, oui, quand on fait du bio, quelles sont les contraintes auxquelles vous êtes confrontés quotidiennement, finalement, ici, et ce qui va nous amener sur le terrain justement de vos pratiques hein, pour essayer de les contrer.
Alors à maraîchage, les principales contraintes du bio, ce sont la lutte contre les maladies, donc soit maladies fongiques par les champignons ou par les insectes. Et ensuite, nous, le point critique, c'est le désherbage, parce qu'en bio, on n'a aucun désherbant chimique que l'on peut utiliser. Donc c'est du désherbage qu'on appelle du désherbage mécanique. Ouais. Donc soit manuel, nous on utilise beaucoup des petits outils qu'on appelle la houe maraîchère.
Alors on l'a vu hier, ouais, avec Camille. Hein, vous pouvez nous le décrire, c'est une petite roue, c'est ça
qui oui, c'est
un petit chariot qu'on
voilà,
pousse.
Voilà, un chariot avec une roue. Et puis dessus, on peut adapter différents outils, des lames sarcleuses, des petites griffes. Et ça nous permet de désherber des surfaces assez importantes sans trop d'efforts.
Mais ouais. vous m'avez repris hier parce que je me disais, oh là là, bah c'est un peu comme une sorte de tondeuse mécanique. Vous m'avez dit, ouais, enfin, sauf qu'en même temps, il y a la terre à pousser,
oui,
il faut avoir les bras quand même.
Il faut quand même y aller.
Ouais. Ouais, alors justement, Cyril, quand on n'utilise pas de pesticides, quand on fait du bio, bah, toute l'idée, c'est d'essayer de trouver des solutions quoi, pour contrer cette réalité quotidienne, évidemment, de la nature aussi. Donc, c'est inventer aussi des pratiques et des solutions. Donc, pour les insectes, pour les ravageurs, pour les maladies, qu'est-ce que, par exemple, vous avez mis au point d'efficace, évidemment
pour, Alors, pour lutter contre les insectes ravageurs, la principale méthode, c'est de faire des lâchers d'insectes auxiliaires qui vont manger les insectes ravageurs.
Quels insectes, par exemple
le principal souci, pour nous, c'est les pucerons. Parce que c'est un insecte piqueur qui va se développer très très vite. Du coup, à partir d'un insecte, en quelques jours, on a un énorme foyer de pucerons.
Et alors, qui sont ceux que vous lâchez pour les...
Et nous,
les
on va lâcher, alors moi je lâche notamment dans les tomates une petite punaise qui s'appelle Macrolophus. Donc c'est pas une punaise qui ressemble aux punaises classiques qu'on voit des fois dans les maisons. Elle se voit à peine à l'œil nu. Et elle a un spectre d'action très large. Elle va manger les pucerons, les œufs de papillons, les acariens, les trips, les aleurodes. Donc voilà, une fois qu'elle est mise en place dans la culture, elle va se développer, se reproduire, et après elle gère la population de ravageurs toute seule.
Et pour chaque espèce de légume, vous avez alors ce qu'on appelle des auxiliaires, hein, c'est ça, les insectes auxiliaires qui viennent vous aider.
Voilà,
c'est des bons prédateurs pour
vous. On a une panoplie assez large d'insectes.
Et des coccinelles aussi, ou ça c'est un petit peu passé de mode entre guillemets.
Alors la coccinelle, c'est un insecte qui donc la larve mange énormément de pucerons. Nous, c'est pas celle qu'on utilise le plus. Parce qu'on a d'autres insectes qui sont encore plus efficaces, mais dans la nature, enfin là, dans les cultures, si vous vous approchez, il y a déjà plein de coccinelles là à l'état naturel.
Est-ce que les serres, parce que là il y en a beaucoup, on va les décrire tout à l'heure, mais est-ce qu'elles sont plus vulnérables que les cultures en plein champ, Cyril Vignon?
Oui, parce que les
même si elles sont très ouvertes, hein,
parce que dans une serre, c'est un climat qui va être beaucoup plus chaud et beaucoup plus humide, donc les ravageurs vont se développer beaucoup plus vite qu'en plein champ.
Alors Yann Houlette, chez vous, parce qu'on est passé vous voir également hier après-midi,
c'est un bonheur. Hein,
on a vu vos fruitiers, et alors vous nous avez expliqué plein de choses passionnantes sur votre lutte justement. Alors expliquez-nous par exemple pour les cerisiers, comment vous faites vous? Ça va intéresser plein d'auditeurs de la Terre au Carré.
Oui, parce que c'est valable et pour les professionnels et pour les particuliers, on le précise. Hein.
Tout à fait, oui c'est ça. Oui. Et c'est donc c'est une technique assez simple, et d'ailleurs c'est la simplicité qui fait que c'est un peu bizarre que ça marche. En fait, il faut savoir que donc sur les cerisiers, quand on a débuté, on arrivait à faire des cerises assez facilement, on avait juste la mouche de la cerise qui nous pose des problèmes. Et après, ça fait à partir de 2014, je dirais, on a eu des problèmes avec la Drosophile Suzuki. C'est une petite mouche en fait qui vient piquer plusieurs fois la cerise.
C'est pas une mouche qui fait de la moto, hein.
Non, c'est pas, non, c'est ça.
Pardon, c'est nul.
Non, c'est ça. Et c'est vrai qu'on a perdu beaucoup de cerisiers ici dans la région parce qu'on était vraiment dans une impasse technique. Et donc, du coup, nous on a mis en place une situation assez simple. Bon, c'est vrai qu'il faut pas avoir des grosses surfaces, il faut avoir plutôt des arbres isolés ou comme nous, par exemple, on a deux rangées. d'une centaine de mètres de cerisier. Et donc, du coup, ça nous permet, donc, en fait, on met des pièges à drosophiles. Donc, ça, on peut trouver ça sur Internet assez facilement. C'est des pièges à base de vinaigre, de bière, etc. Enfin, voilà, tout ce qui est.
Donc, des petits pots, en fait,
des
avec
petits
du
pots,
vinaigre,
voilà. Et on fait des petits trous de la taille de la mouche. Et ça, on les met, par contre, à l'extérieur des arbres. On les met pas sur les arbres. On plante, nous, des petits piquets des piquets à tomates, par exemple. On les plante à côté, à 2 mètres des arbres, pour que la drosophile les sente. Mais voilà, si elle est dans l'arbre, ça voudrait dire qu'on l'incite à aller dans l'arbre. Et là, on l'incite au contraire à sortir du verger.
Donc vous allez nous dire que les mouches sont attirées par le vinaigre, c'est ça, Yannoulette ?
Exactement,
non, mais je ne vous crois pas du tout. On nous a dit le contraire depuis des centaines d'années.
Eh bien, c'était faux, en fait. Non, elles sont attirées par le vinaigre. Et du coup.
Donc c'est ça, le truc, c'est de surtout pas mettre dans l'arbre.
Dans l'arbre, voilà.
Il faut
l'éloigner, voilà, à proximité, comme à 2-3 mètres maximum, ouais, pour qu'elles puissent quand même les sentir si elles sont dans l'arbre, qu'elles le sentent et qu'elles soient attirées. Et nous, on pulvérise après sur nos cerisiers. Alors, ça va peut-être choquer un petit peu les auditeurs, mais on pulvérise de l'ail, enfin, du purin d'ail, en fait.
Ce qui fait que les cerises chez vous ont un goût particulier.
Exactement.
Non.
Si c'était le cas, en tout cas, si elles avaient le goût de l'ail, en fait,
c'est une plaisanterie.
Pas une solution.
Ça n'a aucune influence sur le goût de la cerise.
Non,
on est d'accord.
Le sent absolument. En fait, c'est du purin d'ail. Donc, on applique, pour les jardiniers amateurs, voilà, on fait à peu près du 5 litres par hectare. Donc, ça fait, voilà, c'est très peu d'ail.
Et ça fonctionne très bien.
Et ça, c'est un miracle, ça fonctionne super bien. Et j'ai encore deux collègues ce matin qui m'ont appelé pour savoir comment je faisais. Et ça, ça paraît trop simple, en fait, parce que c'est vrai qu'on a toujours été habitué à on voit que même certains insecticides n'arrivent pas à résoudre le problème. Et on se dit, mais comment du purin d'ail et du vinaigre peut résoudre un problème que des insecticides ne peuvent pas résoudre? Et donc, voilà, c'est génial.
Cyril, est-ce que vous refusez catégoriquement d'utiliser des produits phytosanitaires, ou est-ce que parfois vous pouvez être amené à faire exception? Ou est-ce que vraiment, quand on fait du bio, c'est impensable?
Alors, en bio, on a le droit d'utiliser des produits phytosanitaires d'origine naturelle.
Oui.
Ça, c'est le cahier des charges qui nous l'impose. Moi, sur mon exploitation, j'utilise très très peu de produits phytosanitaires. On a droit, par exemple, au soufre et au cuivre. Cuivre, c'est la bouillie bordelaise. Moi, 90% de mes légumes ne voient jamais un produit phytosanitaire.
Anatole, toi, donc t'as quand même du monde dans ton potager. Tu le traites comment? Parce que c'est tout en bio, on est d'accord. Est-ce que t'as appris des trucs là où tu savais déjà tout?
Ah non, effectivement, j'ai appris une bonne partie des choses. Et on va dire que je fais avec la nature. Donc des fois, quand j'arrive pas à lutter contre quelque chose, malgré les purins d'ail où j'ai déjà essayé, bien des fois je laisse la nature agir, et du coup je laisse la nature, et du coup je refais un semis, par exemple, ou voilà. Mais je sais que c'est bien possible.
On va t'envoyer en stage là aussi, ouais, chez Yann. Tu vas faire Yann et Cyril, comme ça va t'occuper pendant tout l'été. Allez, on se retrouve dans un instant pour découvrir vos légumes, Cyril Vignon. On croisera un jeune chef qui vient s'approvisionner chez vous pour son food truck, et on ira dans la serre où vous préparez les semis. Mais pour le moment, il est 14h32, c'est l'heure de Camille Passauvert.
France Inter. La Terre au carré.
Et Camille Cronier, vous continuez vos pérégrinations dans la Drôme chez, cette fois-ci, un gros producteur de fruits.
Oui, et c'est même l'un des plus gros du coin.
On peut marcher pendant des kilomètres de la bordure d'autoroute jusqu'à ici. C'est nos vergers. Donc,
c'est vraiment immense quand même.
Ben, c'est immense, oui.
100 hectares chez Marc Fauriel, qui gère Fauriel Frères avec son frère Vincent et ses cousins Luc et Samuel. Exploitation qui a grossi depuis 3 générations. Le grand-père ardéchois avait commencé avec 5 hectares de pêche et de poire. Il y a désormais des pommes, des abricots et des cerises en plus, tout en bio depuis 6 ans.
Là, c'est les poiriers, c'est la variété de poire conférence qui est connue. Et puis à côté, vous avez un verger de pommiers. Donc voilà les futures pommes, elles sont là. Là, il y a juste 2 rangées d'abricotiers. Avec pas grand chose. Hein.
Ils sortent pas encore là?
Non, c'est pas qu'ils sortent pas, c'est qu'il y en a pas. Parce qu'on a eu encore des épisodes de gel.
Normalement, il devrait y avoir plein d'abricots là.
Ce que vous voyez au sommet de l'arbre, ouais, vous voyez au début de l'arbre, ouais, comme ça là, ouais, ça devrait être jusqu'en bas comme ça. Il devrait y avoir entre 1000 et 1200 fruits par arbre. Là, si je compte, il y a 50 fruits sur l'arbre.
Le gel, ennemi juré de l'arboriculture avec la grêle. Et puis, il faut gérer les insectes, hein, bien sûr. Les 8 ouvriers permanents de l'exploitation sont en train de poser, justement, des petites capsules au sommet des poiriers.
Il est où, Métafi? Il y a une journaliste qui veut te parler, Métafi. Hein, si t'es d'accord. Hein.
Bonjour. Ça va?
Ça va, ça va.
que vous faites, dites-moi.
Bah, là, nous filons les diffuseurs pour les poires, et voilà. Nous finissons toutes les pommiers. Là, donc.
Alors, vous avez une espèce de grande perche, je décris pour les gens qui ne vous voient pas, oui. Comme un manche à balai.
Voilà, oui.
Parce que et au bout, c'est quoi comme produit?
C'est un produit.
C'est une phéromone.
Voilà, c'est phéromone, en fait, on reproduit à l'intérieur de la capsule. C'est une capsule qui est poreuse. On reproduit dedans la phéromone sexuelle du carpocaps. Carpocaps, c'est ce qui va piquer la pomme, qui va faire le verre ou de la poire, wow. Qui va faire l'asticot qu'on retrouve dans un fruit. Donc on en met de partout, un tous les deux arbres. Donc les mâles, ils sont désorientés parce qu'ils se repèrent par rapport aux odeurs que vont dégager la femelle. Donc ils ne peuvent pas s'accoupler. Si ça ne couple pas, il n'y a pas d'œuf. S'il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas d'asticot.
Voilà, les confusions, c'est le nom, une des techniques alternatives aux produits de synthèse utilisés dans le conventionnel. Faire du bio à grande échelle augmente les difficultés?
Non, c'est pas, oui. Non, c'est pas à la grande échelle qui augmente les difficultés. Les difficultés, c'est les solutions qu'on a ou qu'on n'a pas.
Et quand même aussi, il faut le dire, hein, les coûts de production plus importants avec notamment le besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Ici, il y a 60 saisonniers, pas facile à trouver d'ailleurs, pour ramasser les 1500 tonnes de pommes, le plus gros de la production, 800 tonnes de pêche, 200 de poires, 20 tonnes d'abricots et 10 de cerises, vendues majoritairement à la grande distribution.
Carrefour et Intermarché. Et on travaille également aussi avec les magasins spécialisés type Biocoop. Et on fait aussi ce qu'on appelle nous l'industrie, la transformation pour faire de la pomme compote. Notamment Charles et Alice.
Du coup, j'ai demandé à Marc Fauriel comment il vit le fait de vendre sa production à un système, on va dire, très critiqué aujourd'hui.
Ouais, c'est des raccourcis, j'aime pas trop. C'est, je veux dire, le produit bio n'est pas réservé à une élite. Je fasse gaffe à ce que je dise là. La majorité des consommateurs vont acheter leurs fruits et légumes dans la grande distribution. Toutes les études du consommateur le mettent en avant. 80% des consommateurs vont dans la grande distribution. Donc, faut pas vouloir opposer les systèmes. C'est terrible de tout le temps vouloir dire, d'un côté, il y a les bons, d'un côté, il y a les méchants. Je pense que chaque modèle a son intérêt, et ce qui permet de démocratiser le bio et que chaque consommateur puisse avoir accès à un marché bio.
Est-ce que ça vous décrédibilise parfois ou pas, cette éthique que vous avez choisi, ce système?
Oui, non. Enfin, la grande distribution, c'est pas la même chose que ce qu'on a connu il y a 20 ou 30 ans. Les choses, dans leur approche, ont changé.
Enfin, moi, je sais qu'il y a des auditeurs de la Terre au carré qui vont bondir en vous entendant dire ça. Hein.
Mais je le sais, c'est pour ça que c'est compliqué. Mais on ne peut pas occulter que 80% des consommateurs vont dans la grande distribution faire leurs achats.
Et donc, ce que vous dites, c'est que si j'achète les fruits Fauriel à mon Intermarché ou à mon Carrefour, ils seront aussi bons que des fruits que j'achète à un petit producteur ici dans la Drôme, chez lui, sur son exploitation ou au marché?
Pour moi, oui. Il n'y a pas de différence.
Autre question qui fâche, le fait que Marc Fauriel soit à la tête de la SAFER ici, qui gère les transactions immobilières agricoles. L'organisme national est régulièrement pointé du doigt. Je vous accule un peu, hein, mais...
Pipi, il s'en met plein les poches et c'est lui qui récupère le foncier. Mais là-dessus, moi, je suis tranquille. Comme je dis, je préfère avoir des voisins que des hectares.
Allez, direction les cerisiers pour finir.
On va couper par là. Ouais. On va passer chez le voisin. Je vais vous faire voir les premiers fruits, mais elles commencent juste à rosir. C'est les précoces de la marche, ce qu'on appelle. C'est vraiment une variété qui n'a pas d'intérêt, mis à part d'être la première. Si vous voulez en manger une, vous pouvez.
Je peux, là.
Ah ouais. Mais ouais.
Vous êtes en train de me dire qu'elles ne seront pas bonnes, en fait.
C'est les premières, donc les premières sont forcément bonnes.
Ouais. Ah ouais, franchement.
Et elles sont à peine mûres, hein, c'est à peine prêt. Hein.
Ouais, même.
Voilà.
Voilà, franchement, ça fait quand même du bien, une petite cerise.
Voilà, il faut faire un vœu. Hein.
Et je ne vous dirai évidemment pas ce que j'ai souhaité, non mais oh.
Camille passe au vert au milieu des fruitiers, c'est à réécouter sur franceinter.fr.
Yannoulette, Cyril Vignon, je vous voyais écouter. Alors Marc Fauriel, il paraît que tout le monde le connaît ici, hein, les Fauriel frères, c'est vrai Yann?
Tout à fait, oui, c'est une famille qui est là, présente ici depuis très longtemps également. Ouais.
Et sur ce qui, quand il parle du fait qu'il ne faut pas opposer les modèles, les systèmes, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes à beaucoup plus petite échelle, hein?
Moi je le rejoins sur deux points en fait, sur le point en fait que bah, si 80% des consommateurs de Carrefour venaient me voir et me disaient tiens Yann, vends-moi des fruits, je serais dans l'incapacité totale de les fournir. Donc c'est vrai que ça permet quand même d'avoir un approvisionnement à grande échelle, on va dire. Et puis après faut voir aussi moi j'étais animateur dans une association de producteurs bio avant, et ces grosses fermes, ces fermes de taille assez importante, on les regarde finalement tout le temps, et finalement c'est aussi ça, de convertir des fermes de grande taille. On se dit finalement c'est possible même à grande échelle, et finalement on se rend compte que la bio c'est pas non plus quelque chose d'impossible qui réservé qu'à des petites fermes. On peut aussi à grande échelle finalement et vulgariser la bio grâce notamment à ces fermes-là.
Cyril Vignon, quand Marc Fauriel dit oui, c'est exactement pareil de manger mes fruits que le petit producteur qu'on va aller voir directement sur sa ferme, est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Pas tout à fait, parce que les fruits qui vont être vendus en circuit long comme la grande distribution doivent supporter le transport, doivent supporter les manipulations des consommateurs, doivent avoir un aspect irréprochable, alors que un fruit qui va être vendu en circuit court, moi quand je faisais des fruits, on les ramassait mûrs sur l'arbre.
Les
pêches en particulier, les abricots, ils ne devaient pas être manipulés par le consommateur. C'était nous qui servions le client. Et c'était les fruits qui n'auraient pas supporté du tout d'être vendus en grande surface.
Donc là, il y a des espèces de techniques qui se mettent en place entre finalement le moment où on cueille et le moment où ça se retrouve dans un rayon qui ne correspondent pas à une petite échelle.
La principale technique, c'est de ramasser le fruit avant maturité pour qu'il supporte le transport. Alors ça, c'est surtout vrai pour la pêche et l'abricot. Ça sera moins vrai pour une pomme, qui est un fruit beaucoup plus solide, qui supportera mieux ce type de commercialisation. Mais voilà, c'est quand même pas tout à fait les mêmes produits.
Hé hey, les amis, vous venez me rejoindre, je vous attends dans la serre aux tomates.
On
allez,
arrive.
Venez, et vous allez voir, il fait très bon ici. Hein. La température a grimpé d'un coup, voilà.
Il n'y a pas de chauffage, Sylvignon, c'est tout naturel, on est d'accord.
Ah oui, c'est tout naturel. Moi, pour moi, il est hors de question de chauffer des légumes. Les légumes bio.
Donc les tomates bio qu'on mange en ce moment, qui sont faites sous serre chauffée, on oublie.
On oublie. La vraie saison de la tomate, c'est du 15 juin jusqu'au 15 septembre. Ouais. Voilà.
Ça te plaît toutes ces tomates, Anatole ?
Oui, tout à fait.
Ça te fait rêver cette grande serre comme ça ?
Effectivement, c'est magnifique avec des tomates en fleurs. Ouais. C'est
tu vas en semer toi bientôt ?
Moi, les tomates sont déjà semées depuis environ la début mars.
T'as beaucoup de variétés ?
Alors, j'en sème environ 10 variétés par an, et j'en ai dans ma boîte à graines, j'en ai environ 30 variétés.
Et tu m'as dit que tu rêvais d'une serre en verre, c'est vrai ?
Oui, tout à fait. Je rêverais d'une serre en fer pour faire mes semis plus tôt et avoir une lumière, une luminosité optimale.
Ouais. Cyril, vous avez remis au goût du jour donc des espèces anciennes. Donc on l'a dit tout à l'heure, il y a énormément de variétés de tomates, par exemple. Mmh. Comment est-ce que vous réfléchissez à ce choix justement ? Comment est-ce que vous faites pour vous dire tiens, j'ai envie de sélectionner tel ou tel légume ? Et pourquoi remettre au goût du jour des légumes anciens ?
Alors moi, quand je choisis une variété de n'importe quel légume, mon critère principal, c'est le goût.
Oui.
Voilà. Après, dans les variétés anciennes, il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes. Donc, on les teste. Moi, chaque année, j'essaye des variétés.
Et après,
celle qui me plaît et qui plaît surtout à mes clients, je continue dans les années suivantes.
Quoi,
les goûts produire. D'antan étaient vraiment plus prononcés qu'aujourd'hui ? Ça, c'est une constante ou pas ?
Oui. Ouais. En fait, la sélection variétale, pendant des années, on s'est seulement intéressé de la couleur du fruit ou du légume, de sa tenue au transport, de son calibre,
oui.
De l'homogénéité. Mais souvent,
le
critère goût, il est passé un peu à la trappe.
Ouais.
Voilà. Et là, il y a quoi comme variété ? Alors, 25, c'est ça ?
Oui, alors entre autres, il y a la Green Zebra, qui est une tomate verte, la tomate ananas, qui est une grosse tomate avec une chair jaune-orangée, qui est vraiment une des meilleures tomates. Moi, c'est celle que je préfère. La cœur de bœuf. Après, j'ai les tomates cerises de toutes les couleurs aussi.
Il y en a des un peu plus originales ou pas ? Enfin, qu'on ne connaîtrait pas ?
J'ai une cœur de bœuf ananas. Voilà.
Ah oui.
Qui a la forme de la cœur de bœuf et la couleur d'ananas. Presque.
La couleur, ouais. Voilà. Alors là, on a changé. On est sorti donc de votre serre et on va l'entendre. On va pénétrer dans votre boutique, en fait.
C'est ça.
Un vieux Renault 556 à ma droite. Il marche encore ?
Oui, bien sûr.
Ah.
Alors c'est là que vous faites justement la vente le jeudi.
C'est ça.
Est venu nous rejoindre Jaron Catafor. Bonjour Jaron.
Bonjour.
Bonjour.
Et on peut vous croiser régulièrement ici. Vous êtes restaurateur.
C'est ça.
Vous êtes à la tête avec votre femme Pauline d'un food truck qui s'appelle l'Agricantine.
Exactement.
Et vous étiez auparavant dans un restaurant étoilé, c'est ça ?
Ouais, enfin j'ai fait plusieurs maisons et puis après, au bout de 7 ans, je suis parti.
Ouais.
Je suis parti 2 ans travailler en saison de ski et puis je suis revenu avec le Covid, plus de boulot. Donc il fallait travailler. Donc je suis revenu chez moi et j'ai ouvert un food truck.
Vous faites de la cuisine locale ?
Oui.
Produits locaux uniquement
Oui, moi je viens le lundi et le jeudi, parce que Cyril ramasse le lundi matin et le jeudi matin.
Alors, qu'est-ce que vous avez qui vous attend là, Cyril ? Comment ça se passe entre vous deux alors, quand le restaurateur vient voir le producteur ?
Alors, des fois il vient à l'improviste et
il vous emmerde.
Il fait la razzia. Là, aujourd'hui il a laissé un message, il a commandé. Voilà, donc je vais préparer ça.
Alors, qu'est-ce que vous voulez préparer ?
Donc, aujourd'hui il a des fraises.
Ouais.
Voilà. Ensuite, il a du mesclun, de la mâche et de la roquette. Et il a des carottes nouvelles en boîte.
Pas d'asperges.
Non, j'en ai pris lundi.
Donc vous en avez encore.
Oui, il m'en reste un petit peu.
Mais Jarod, ça veut dire que vous adaptez à ce que vous propose Cyril. Vous faites vos menus comme ça.
On a la chance de pas avoir de carte fixe. Donc on change toutes les semaines toutes les cartes. Donc je viens le lundi, je vois ce que Cyril il a.
Ouais.
Puis je commande pas.
Et pourquoi vous avez choisi de vous fournir chez Cyril en particulier?
Eh ben, c'est
vous n'allez pas dire du mal de lui, évidemment, non, et on est chez lui.
Non, mais c'est improbable. À la base, je me suis fait planter. Je vais travailler avec un vendeur de légumes à la base, parce que on a ouvert dans un très court délai, donc en plein Covid. Et je cherchais un maraîcher, je trouvais pas. Et une de mes productrices de chèvres, de la fermeuse, Agathe Bost, m'a dit va voir Cyril, il travaille super bien. Donc j'ai cherché, j'ai pas trouvé. J'étais dans un champ plus loin, un champ de chou-fleurs, et j'ai trouvé, et puis on a discuté, et le lendemain, on travaillait ensemble.
Ah oui, donc le hasard, et vous êtes resté quand même, ça veut dire.
Ouais, depuis le premier jour de mon ouverture jusqu'à maintenant.
Qu'est-ce qu'on trouve alors à la carte de votre food truck? Par exemple, aujourd'hui, vous aviez quoi à proposer à vos clients?
Alors, on avait donc un petit velouté d'asperges, donc avec les asperges de Cyril.
Ouais.
Et là, donc ce soir, je change, je vais faire une petite aioli, donc je vais prendre justement un peu des légumes, faire une aioli de printemps, quoi. Donc un peu d'asperges, de la carotte fan, de la cébette.
Ouais.
Et puis, ce qu'il y aura, un peu de pommes de terre nouvelles.
Parce que là, Cyril, ce qu'il y a derrière nous aussi, il faut le dire, ça, c'est donc, on le disait tout à l'heure, il y a des clients aussi qui peuvent venir le jeudi. Qu'est-ce qu'il y a alors là?
Donc, c'est ce qu'on a ramassé ce matin. Donc, il y a des épinards, il y a des salades, du mesclun, de l'oignon cébette, de l'oignon nouveau, des radis classiques et de couleur. Ensuite, j'ai du fenouil, du chou rave, les premières courgettes.
Oui, j'allais dire courgettes, c'est pas
c'est
tôt,
les toutes premières, sous serre.
Oui, c'est ça, parce que vous avez des courgettes en plein champ et une partie serre.
Oui,
hein, c'est ça.
Oui.
Pourquoi vous faites les deux? D'ailleurs, c'est pour en avoir plus rapidement.
Pour en avoir plus tôt, oui.
Ouais.
Voilà. Parce que nos clients sont quand même toujours impatients d'avoir des nouveaux légumes.
Ouais. Voilà. Alors, vos clients, ce sont de grands restaurateurs, par exemple Anne-Sophie Pic, qui travaille ici à Valence. Mmh. Alors, vous faites, on va d'ailleurs y aller, on va sortir ici de votre magasin, entre guillemets, et on signale d'ailleurs à tous ceux qui nous écoutent qui peuvent venir aujourd'hui vous acheter des légumes.
Allez, venez tout de suite.
C'est ouvert le jeudi, donc venez rencontrer Cyril à L'Oriole.
C'est Mathieu Vidard qui vous fera la caisse.
Et 50 qui font 100. Voilà, j'ai toujours rêvé de faire ça. Et alors donc, on va aller dans l'autre partie de la propriété. On va traverser la route avec Camille et toute l'équipe.
On peut peut-être donner un mot d'ailleurs de votre maison qui est magnifique.
Alors la ferme qui est assez imposante, c'est un ancien relais de halage, puisque il y a plus de 100 ans, il y avait un bras du Rhône qui passait devant la maison.
Donc là, il y avait le Rhône, là où on marche, en gros, il y avait le Rhône.
Et là, il y a vos champs maintenant.
Ce qui veut dire que la terre est super fertile, enfin, c'est un avantage évidemment, j'imagine.
Oui, c'est des terres d'alluvion. Ici, la particularité, c'est que c'est à la fois des terres d'alluvion des alluvions de la Drôme et du Rhône, puisqu'on est à l'embouchure de la Drôme.
C'est-à-dire que la terre sur laquelle on marche maintenant, puisqu'on a donc traversé la route, c'est pas la même que celle sur laquelle on était là-bas?
Non,
elle est mieux, celle-là?
De ce côté, c'est une partie un peu plus sableuse, alors que de l'autre côté, c'est beaucoup plus argileux, limoneux, une terre plus forte,
donc ça
plus
veut dire
difficile
quoi,
à travailler.
Ouais.
Voilà. Donc,
Donc
il faut l'améliorer en apportant du fumier, du compost, de la matière organique pour essayer de l'alléger un peu.
Alors Cyril, dans le champ à droite, donc il y a tous les petits légumes que vous préparez par exemple pour une restauratrice comme Anne-Sophie Pic, qui a des demandes très particulières, et vous le faites pour elle, vous adaptez vraiment.
Oui, moi je fais ce qu'on me demande.
Mini-légumes, c'est ça?
Donc des mini-légumes.
C'est facile à faire ça?
Alors soit on trouve des variétés de mini-légumes, comme cette année j'ai trouvé une variété de mini-aubergines, ou sinon après on peut faire un semi.
Justement, semis. Je les cherche, les semis.
Mathieu, il va où là? Il est en train de partir.
Je cherche les semis.
Elle est là, la serre des semis.
On peut faire des semis beaucoup plus serrés, comme par exemple les betteraves. Pour faire de la mini-betterave, on va semer à une densité beaucoup plus grande.
Alors, on va rentrer donc dans cet espace.
Attention,
tiens,
à
Anatole,
la flaque.
Viens avec nous.
Attention à la flaque à l'entrée, les amis.
Fais attention où tu mets les pieds. Voilà,
ça,
tiens, passe par là.
Ça glisse un peu.
Voilà, il y a quelques petites flaques
donc
d'eau.
Donc, vous faites vos propres semis.
Voilà, on fait tous nos plants. On fait tous nos plants, excepté les patates douces, les fraises et les poireaux. Voilà, mais sinon, on fait tous nos plants. Donc, on achète les graines. Nous, on part de la graine jusqu'au produit final.
Qu'est-ce qu'on a sous nos yeux, là?
Là, c'est des tomates de plein champ qui seront plantées d'ici une dizaine de jours. Ça, c'est du céleri rave. Ça, c'est des aubergines. Là, c'est du piment.
Piment, vous venez d'en planter. Hein,
on a planté hier, oui.
Avec de la pastèque.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça t'inspire, Anatole, tous ces semis? Toi qui en fais, on l'a dit tout à l'heure.
Oui, tout à fait. J'en fais dans ma serre, mais on va dire à d'autres proportions.
C'est vrai.
Oui, tout à fait. Donc là, c'est sûr que moi, je dois en faire, j'en fais environ une vingtaine par an. Et là, à mon avis, il y en a bien plus. Ouais. Mais c'est vrai que ces semis sont magnifiques.
Et est-ce que tu expliques, est-ce que tes copains, par exemple, tes copines, ils en font avec toi ou ça les intéresse pas du tout? En gros, est-ce que tu es un ovni au milieu de tes amis, de ta classe ou pas?
Alors, je pense que oui, je suis un peu un ovni. Je pense que oui, je suis un peu le seul à en faire au milieu de tout ça.
T'arrives pas à les intéresser alors de leur dire allez, mettez-vous-y aussi?
C'est difficile, on va dire, parce que j'ai des fois j'essaye de convaincre des copains, venez m'aider, tout ça. Et c'est assez difficile de leur expliquer, viens, c'est génial, ça peut permettre l'autonomie alimentaire, tout ça, voilà.
Voilà, ça c'est 11 ans, hein. Ce garçon a 11 ans.
Ah oui, je précise, c'est t'écoutes la Terre au Carré quasiment tout le temps, c'est ça?
Effectivement, j'écoute la Terre au Carré environ tous les deux jours.
Incroyable.
Cyril Vignon, quand on est ici dans cette serre pour les semis, ça veut dire aussi qu'il faut faire tout un travail d'anticipation avec un vrai calendrier de planification sur toute l'année. Ça doit être un gros casse-tête, non? Parce qu'avec les restaurateurs, il faut prévoir les saisons et donc planter, semer pour imaginer ce qui va se passer plusieurs mois plus tard.
Oui, en fait, il faut toujours anticiper d'une saison, voire deux saisons en avance. Donc là, ouais. on pense déjà aux semis pour les légumes d'automne et d'hiver prochain. Ouais. Voilà. Les céleri raves qu'il y a là, ils seront plantés pour une récolte à partir du mois d'octobre.
Et en fonction du nombre de clients, vous avez autant de difficultés qui se présentent?
Eh bien, chaque client a ses demandes, ses particularités, ouais. Et voilà, il faut s'adapter.
Est-ce qu'on peut faire un petit point, tiens, avec Yann Houlette aussi? Donc vous nous disiez tout à l'heure, Cyril, les fraises, c'est en ce moment. Les tomates, par contre, c'est 15 juin, 15 septembre. Yann Houlette, en ce moment, les fruits, c'est quoi?
En ce moment, les fruits, ben c'est pas grand-chose.
Il y en a pas.
Non, mais on va avoir les premières cerises. Nous,
donc on mange pas de fruits.
Bon, si, il y a encore quelques pommes qui restent, mais enfin nous, on en a plus. Mais voilà, il y a encore des pommes qui peuvent se tenir jusque ces dates-là. Oui, voilà, on arrive encore à en avoir. Mais là, les premières cerises vont arriver dans 15 jours.
Cyril Vignon, c'est quoi la grosse usine juste à côté de nous, derrière vos serres?
C'est une usine de chips.
Ah. C'est la marque Bretz, on peut le dire, c'est ça? Oui. Et alors, il y a quelque chose qui vous nous le disiez hier, donc moi je vais le dire quand même. Bretz, si vous nous écoutez, donc c'est vraiment à même pas 100 mètres de
100
nous.
Mètres, ouais.
Ils éclairent toute la nuit, Bretz. Pourquoi vous éclairez vos usines toute la nuit alors qu'il n'y a rien du tout autour et que c'est à l'intérieur que ça se passe?
Et que ça dérange les chauves-souris, par exemple.
Alors, ça dérange les chauves-souris, parce que nous, on a beaucoup de chauves-souris comme c'est des vieux bâtiments qui sont là et qui sont utiles pour nous pour manger les insectes nuisibles. Et deuxième chose, moi, j'ai de plus en plus de soucis de chenilles, puisque les papillons nuisibles vont se reproduire sous les lampadaires.
Ils sont attirés par la lumière, voilà. Donc les papillons nuisibles.
Et du coup, moi, j'ai de plus en plus de problèmes à cause de ça. Quoi.
Donc les chips, ce serait bien de baisser un peu la lumière.
D'éteindre, si tout possible. Simplement.
Voilà. Et bien, on lance l'appel.
Allez.
Hein, et puis, ils peuvent nous envoyer un petit message sur le répondeur de la Terre au Carré pour nous dire pourquoi ils laissent la lumière allumée.
Il y a peut-être une raison, mais on aimerait bien savoir.
01 56 40 45 45. Et les chauves-souris, Yann Houlette, c'est très précieux aussi quand on fait des fruitiers.
Et oui, c'est extrêmement précieux. D'ailleurs, si vos auditeurs veulent nous aider, nous, on essaye de mettre en place sur la ferme, justement, la niche écologique idéale pour la chauve-souris. Parce que, comme disait Cyril, elle nous aide énormément, et notamment pour la lutte contre le ver de la pomme, celui qu'on dessine en maternelle qui sort de la pomme en souriant. Ouais. Et ben nous, il nous fait pas sourire. Ouais. Et du coup, les chauves-souris, elles, donc ça, c'est un papillon de nuit en fait, ce petit asticot. Et en fait, du coup, les chauves-souris sont vraiment le prédateur numéro un.
Et donc, il faut les attirer.
Et il faut les attirer. Du coup, voilà. Donc nous, on essaye de, donc on a mis plein de haies parce qu'elles aiment tout ce qui est un peu linéaire dans tous les sens, certes. Enfin, voilà, des haies pas toutes orientées de la même manière, mais elles aiment aussi et surtout boire en fait, elles vont avoir des points d'eau assez importants et donc boire sur des surfaces et donc on est en train d'essayer de mettre en place une mare.
Voilà, et vous avez lancé un financement participatif. Je trouve que c'est une super initiative. Bon, ben voilà, vous aider pour financer la mare pour les chauves-souris, je trouve que ça a de la gueule.
Non, mais franchement, si vos auditeurs veulent acheter une grenouille, il n'y a pas de souci.
Allez, on se retrouve dans un instant, on va déguster quelques fraises et vos jus de fruits d'ailleurs, Yann Houlette. Pour le moment, on retrouve le reportage d'Anaël Verzo autour des luttes de la Drôme. Aujourd'hui, direction Saint-Paul-Trois-Châteaux, où un collectif se bat depuis 2 ans contre un projet d'échangeur autoroutier qui pourrait mettre en péril justement 20 hectares de terres agricoles. Nous sommes avec Philippe Delesta, co-président de l'association Vivre, Respirer, Se Déplacer en Tricastin.
Donc ici, vous avez de chaque côté une zone, la zone industrielle, la nouvelle zone industrielle qui a été créée, qui a encore pris une trentaine d'hectares de terres agricoles, malheureusement. Et là, nous arrivons donc sur notre droite, là. Donc voilà, on a les deux champs qui vont être pris par l'échangeur.
Ah d'accord, donc là...
Là, on peut apercevoir, on a mis un petit panneau, là.
Non au gaspillage des terres.
Voilà.
Ah voilà, on arrive chez...
Denis Hugues, donc l'agriculteur, à qui appartiennent 95% des terres qui sont impactées par les changeurs autoroutiers.
Bonjour.
Père.
Enchantée. On a les oiseaux d'un côté et l'autoroute de l'autre. Denis, on est devant chez vous. Il y a combien d'hectares de terre qui risquent de disparaître ?
De disparaître, sur le projet au départ c'était 8 hectares. Après on m'annonce 12. Après il y a des bassins de rétention, il y a des parkings de covoiturage. Ça sera 20 hectares impactés par la sortie.
Il y a combien de personnes qui vivent ici ? C'est l'exploitation familiale, hein, Denis. Donc il y a votre papa ?
Oui, il y a mon papa, ma maman. Après j'ai mes deux enfants. Qui a une fille qui travaille à Chambéry et un fils qui travaille dans la mécanique agricole à Saint-Andiol.
Il va peut-être reprendre ici aussi.
Mais le problème, c'est que mon fils était revenu l'année dernière, 8 mois, travailler avec moi. Et vu qu'il y a plein de projets qui risquent de bloquer l'exploitation et tout, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai dit, tu repars dans la mécanique. Hein, parce que pour l'avenir de l'exploitation, je vois mal barrer l'exploitation, quoi.
Alors moi je suis Hubert, donc là je représente les Amis de la Terre de la Drôme. On est là devant un grand projet inutile. 21 km de distance entre deux échangeurs, à quoi bon en faire un troisième ? C'est aussi un projet coûteux, il a été estimé par Vinci à 21 millions.
Donc c'est Vinci qui payerait 21 millions ou c'est...
Moitié Vinci, moitié les collectivités et l'État. Donc de l'argent qui pourrait être utilisé ailleurs. Et c'est aussi un projet destructif, comme l'a dit Denis, puisque des terres agricoles vont disparaître alors qu'on en a tant besoin. Dans la Drôme, on travaille beaucoup sur la question de la résilience alimentaire et on n'a jamais vu des pommes de terre pousser sur un sol bétonné.
Marie Messier, donc je suis la coprésidente de l'association Vivre, Respirer, Se Déplacer en Tricastin. Les trois quarts, une bonne partie des échanges routiers du secteur sont sur des gens qui travaillent dans le secteur. Ils n'ont pas besoin de l'échangeur. Qu'on fasse des progrès sur le réseau secondaire, qu'on fasse des pistes cyclables, enfin, pour que les vélos puissent se déplacer en toute sécurité, qu'on fasse des lignes SNCF pour que les gens, notamment les personnes âgées qui n'ont plus les moyens de prendre leur voiture, puissent se déplacer, oui. Mais cet échangeur, il sert à rien. Voilà, c'est du gaspillage.
Denis qui est monté sur son tracteur.
L'échangeur, aujourd'hui, rien n'est fait. L'enquête publique aura lieu en 2023. C'est pour ça que nous, on se bat pour que, justement, avant que l'enquête publique, il faut faire changer les mentalités des habitants de Saint-Paul, de Pierre-Latte. C'est pour ça qu'on fait des manifestations. On a fait une conférence débat sur les mobilités. On a fait un ciné-débat, justement, sur l'artificialisation des terres agricoles. Et le 7 mai, donc, on fait cette grande manifestation à Saint-Paul pour vraiment montrer que, voilà, on est très nombreux à s'opposer à ce projet.
Voilà, reportage signé Annel Verzo. Notez que samedi, une grande manif sera organisée à Saint-Paul-Trois-Châteaux contre cet échangeur autoroutier. Cyril Vignon, c'est un vrai défi aussi en tant qu'agriculteur de lutter pour ces surfaces agricoles.
Évidemment, il y a de plus en plus de ce qu'on appelle des néo-ruraux qui veulent s'installer agriculteurs et qui ne trouvent pas de foncier, notamment dans la vallée du Rhône où on est quand même servi par les zones industrielles, les zones commerciales, les routes, les échangeurs. Voilà.
Yann Houlette, il y a un autre sujet qui est important, c'est celui du réchauffement climatique. Vous, c'est une contrainte à laquelle vous êtes exposé au quotidien. Et est-ce qu'ici, il va falloir vraiment changer des pratiques, prévoir de nouvelles variétés de fruits, par exemple, à cause de ça ?
Mais c'est vrai que moi, je suis un petit agriculteur tout neuf, puisque ça fait seulement 10 ans d'expérience que je suis sur cette ferme. Et c'est vrai que rien qu'en 10 ans, on a vu énormément de changements. Et moi, c'est vrai qu'en tant qu'agriculteur, plus que même les problèmes qu'on peut avoir en bio ou quoi, c'est vraiment le réchauffement climatique qui m'inquiète le plus, en fait.
Ouais.
Voilà, parce que c'est vrai qu'on est, on essaye en fait de mettre en place quelques techniques pour essayer d'éviter d'avoir des sols nus, d'avoir des sols voilà qui sèchent trop rapidement. Donc on fait des paillages, on fait des, on essaye de mettre en place des techniques, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas d'effet. Enfin, à grande échelle, en tout cas, ça ne pourra pas vraiment être des solutions. Donc pour l'instant, on est sur une impasse par rapport au réchauffement climatique. C'est vrai.
Yann Houlette, on va terminer cette émission en dégustant alors quelques fraises de Cyril.
À genoux dans les fraises.
Et du jus de fruits. 100% bio, évidemment.
Allez, je l'ouvre.
Voilà, on peut lire sur l'étiquette de la bouteille les écrasés du bocal. Moi, j'aime beaucoup ça.
Je trouve
ça
très bien. On est un peu des écrasés du bocal, c'est ça.
Et puis peut-être qu'Anatole.
Tu peux nous lire ton petit poème, Anatole, pour terminer sur les légumes anciens. Vas-y.
Tiens, Mathieu.
Merci beaucoup.
Les légumes anciens. Jadis, dans nos assiettes,
un chou, un navet et une maigre laitue. Plus tard, au XVIe siècle, nos plats prirent couleur. Tomates, aubergines et poivrons se sont installés sous un climat bien différent. Concombres et cornichons ne tardent pas à être vendus aux plus riches bourgeois.
Et ben on finira avec ça. Merci beaucoup. Et avec quelques et fraises. Merci Cyril.
Fraises, bon,
merci à vous. Merci beaucoup de nous avoir invités. Merci Yannoulette. Demain, la suite et la fin de nos pérégrinations dans la Drôme. Passez une très bonne journée à l'écoute de France Inter.
Et
ciao, bye bye.